Vous écoutez, on lit pour vous.
Une ceinture d'astéroïdes canadienne. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 22 septembre 2024 dans la presse. La sonde New Horizon a développé une nouvelle catégorie d'astéroïdes. Cette découverte d'un Canadien pourrait signifier qu'il existe une troisième ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. La surprise. Après avoir scruté Pluton comme jamais auparavant, New Horizon a étudié pendant quelques années la ceinture de Kuiper, une zone remplie de corps célestes dont on ignorait l'existence jusqu'à tout récemment. Le plan était ensuite de recalibrer la sonde lancée en 2006 pour une mission héliophysique, l'étude du vent solaire. La conversion a été évoquée dès 2020, mais une surprise de taille a surgi. En 2022, nous avons commencé à voir un nombre imprévu et très important d'objets inattendus, explique Alan Stern, astrophysicien de l'Institut de recherche du Sud-Ouest, SWRI, au Texas, qui dirige le programme New Horizon. Ces objets, évoqués par Alan Stern, sont des astéroïdes ou des comètes. Et comme New Horizon ne voyait pas beaucoup d'astéroïdes depuis quelques années, les astronomes pensaient que la ceinture de Kuiper se terminait comme prévu à 50 unités astronomiques, UA, une unité de mesure correspondant à la distance entre la Terre et le Soleil. Mais, quand New Horizon est arrivé à 60 UA, ces instruments ont dénombré 5 fois plus d'astéroïdes que prévu, souligne Wes Fraser, astrophysicien de l'Université de Victoria en Colombie-Britannique, qui est l'auteur principal de l'étude publiée au début de septembre 2024 dans Planetary Science Journal of the American Astronomical Society. Ces objets sont aussi loin de Pluton, le plus connu des objets de la ceinture de Kuiper, KBO, que Pluton l'est de la Terre. Cela pourrait signifier que la ceinture de Kuiper est beaucoup plus étendue que prévu. Ou alors, si les objets situés au-delà de 60 UA sont différents des autres KBO, il s'agirait d'une deuxième ceinture de Kuiper. Plusieurs médias scientifiques, dont la revue Science, ont adopté cette appellation. Cela signifierait qu'il y a 3 ceintures d'astéroïdes dans le système solaire, la plus connue étant située entre Mars et Jupiter. Est-ce que cette découverte est aussi importante que celle de la ceinture de Kuiper il y a un peu plus de 30 ans? Probablement pas, répondent Messieurs Stern et Fraser. Sauf si ces KBO lointains se révèlent être d'une nature différente des autres, précise Wes Fraser. Dans tous les cas, on a au moins fait la preuve que le disque de la ceinture de Kuiper est très étendu, comme pour les autres systèmes solaires qu'on a observés, dit M. Stern. Notre système solaire était une anomalie avec sa ceinture de Kuiper très courte. La résonance. Ces nouveaux objets ne forment probablement pas un cercle parfait autour du Soleil parce qu'ils sont en résonance avec Neptune. 2 corps célestes en résonance stable ont une orbite liée. Par exemple, l'attraction de Pluton pour Neptune fait en sorte que Pluton fait 2 orbites chaque fois que Neptune en fait 3. On parle alors de résonance 3-2.2 avec Neptune. Comme Pluton, le quart des KBO sont en résonance 3-2.2 avec Neptune. Mais cette résonance n'est pas possible partout dans l'orbite de Pluton et de la ceinture de Kuiper, ce qui signifie qu'il y a des trous dans cette dernière. Les astéroïdes découverts par New Horizon sont en résonance 5-2.2 avec Neptune, ce qui signifie qu'ils font 2 orbites chaque fois que Neptune en fait 5. On pense qu'on aura des régions de l'orbite de cette nouvelle ceinture où il y aura des objets et d'autres où il n'y aura rien, signale M. Fraser, qui œuvre aussi au Centre de recherche Hertzberg en astronomie et en astrophysique du Conseil national de recherche du Canada. C'est ce qui explique que, contrairement à la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, la ceinture de Kuiper et celle qui a été découverte par New Horizons ne forment pas un cercle continu. La vérification. L'équipe de New Horizons n'a pas ébruité tout de suite sa découverte. Il fallait être sûr que ce n'était pas un objet isolé, dit M. Fraser. Une première observation par un télescope terrestre n'a pas trouvé d'astéroïde à une telle distance. Cela pouvait s'expliquer par une résonance 5.2.2 avec Neptune. Il faut dire que New Horizons avait fourni une autre preuve de l'existence de cette deuxième ceinture de Kuiper, note M. Fraser. La quantité de poussière qui s'accumulait sur ces instruments avait recommencé à augmenter, signe de collision entre astéroïdes. Le télescope japonais Subaru, à Hawaï, a été mis à contribution pour étudier les régions du ciel où cette résonance 5.2.2 prédisait qu'on trouverait des astéroïdes de cette deuxième ceinture de Kuiper. Cet effort a été payant et a généré l'étude publiée ce mois-ci. Ces résultats ont fait l'objet de discussions à quelques reprises depuis 2023 dans des congrès scientifiques. La prochaine étape et d'amasser d'autres observations, notamment grâce au télescope spatial américain Nancy Grace Roman, qui doit être lancé en 2026. Quand on aura observé assez de ces KBO éloignés, on pourra établir la proportion de leurs différentes tailles. Si le profil de taille diffère des KBO déjà connus, cela signifiera qu'ils proviennent d'une autre région du système solaire. Trois ou quatre ceintures. Outre la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter et là où les ceintures de Kuiper, il existe une autre région du système solaire qui compte plusieurs corps célestes. Le nuage d'Oort serait surtout composé de comètes à longue période et serait situé entre 2000 et 100 000 UA. Cette troisième ou quatrième ceinture d'objets serait sphérique. Le nuage d'Oort et la ceinture de Kuiper ont été prédits dans les années 1950 par deux astronomes néerlandais qui leur ont donné leur nom. Il existe également des astéroïdes troyens qui suivent les orbites des différentes planètes du système solaire ainsi que des astéroïdes Centaure situés entre Jupiter et Neptune. Les orbites de ces deux classes d'astéroïdes ne sont généralement pas stables. La sonde américaine a décollé en 2006 et a étudié pendant plus de 6 mois Pluton et sa lune Charon en 2015. Elle est passée à moins de 12 000 km de l'ancienne 9e planète qui a été rétrogradée au statut de planète naine en 2006. New Horizons a détecté du volcanisme sur Pluton, ce qui pourrait signifier la présence d'un océan souterrain et donc de la vie plutonienne bactérienne. New Horizons a aussi découvert des preuves que du méthane migre de Pluton vers Charon. En savoir plus, source NASA. 100. Nombre d'objets de la ceinture de Kuiper découverts par New Horizons. 2000. Nombre d'objets de la ceinture de Kuiper découverts jusqu'à maintenant. 100 000. Nombre estimé d'objets de la ceinture de Kuiper de taille supérieure à 100 km. De 20 à 200 fois. Masse estimée de la ceinture de Kuiper par rapport à la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. De 100 à 1000 fois. Masse estimée du nuage d'Oort par rapport à la ceinture de Kuiper. C'était une ceinture d'astéroïdes canadienne, un texte de Mathieu Perrault paru le 22 septembre 2024 dans la presse.
Et si avoir des pieds plats était normal? Un texte de Gabriel Moisan paru dans Bel Âge. L'idée selon laquelle les personnes ayant les pieds plats sont plus sujettes à développer divers problèmes a été largement répandue parmi les chercheurs, les professionnels de la santé et la population générale pendant de nombreuses décennies, voire des siècles. Plus précisément, il était reconnu que d'avoir des pieds plats constituait une prédisposition future à des douleurs et autres problèmes musculo-squelettiques, c'est-à-dire aux muscles, tendons et ou ligaments. Une sorte de bombe à retardement. Or, dans un éditorial récent publié par mon équipe de recherche dans le British Journal of Sports Medicine, nous remettons en question ce mythe. Nous y démontrons que la théorie selon laquelle avoir des pieds plats conduit inévitablement à des douleurs ou à d'autres problèmes musculo-squelettiques est infondée. Étant chercheur en médecine podiatrique à l'Université du Québec à Trois-Rivières, j'étayerai ici les faits saillants de notre étude. D'où cette théorie provient-elle? L'idée que les pieds plats pose problème remonte à plusieurs siècles. Elle a été ravivée dans la seconde moitié du 20e siècle par des podiatres américains, Merton L. Root, William P. Orion et John H. Weed, qui ont popularisé le concept de pieds idéaux ou normaux. Ces cliniciens chercheurs ont avancé que les pieds ne répondant pas à des critères spécifiques de normalité, par exemple, une arche plantaire bien définie, un talon droit et aligné avec le tibia, étaient considérés comme anormaux, moins performants et plus enclins aux blessures en raison de multiples compensations biomécaniques, telles qu'un affaissement plus important du pied lors de la marche. Cette théorie est devenue centrale dans les programmes éducatifs des professionnels de la santé, bien qu'elles disparaissent progressivement avec la mise à jour des cursus modernes. Elle a toutefois été enseignée pendant près de 5 décennies à travers le monde, et ce, même si les fondements scientifiques étaient faibles. En fait, la science n'a jamais validé cette théorie, la laissant toujours au stade d'hypothèse. Au fil des années jusqu'à aujourd'hui, de nombreux professionnels de la santé continuent de soutenir la théorie selon laquelle avoir les pieds plats est un facteur de risque majeur pour les troubles musculo-squelettiques. Conséquemment, cette idée est encore solidement ancrée dans les croyances de la population générale. Est-ce que pieds plats rime avec blessures musculo-squelettiques? Contrairement à la proposition de Root et ses collègues, des méta-analyses, le plus haut niveau d'évidence scientifique, ont révélé une absence de risque accru de développer la grande majorité des blessures musculo-squelettiques chez les personnes avec des pieds plats. Ces méta-analyses ont seulement identifié des liens faibles entre avoir des pieds plats et le risque de développer un syndrome de stress tibial médial, douleur au niveau du tibia, un syndrome fémoro-patellaire, douleur autour de la rotule, ainsi que des blessures non spécifiques de surutilisation des membres inférieurs. C'est tout. Par ailleurs, une revue systématique et une méta-analyse ont conclu que les coureurs avec les pieds plats ne sont pas plus à risque de se blesser que ceux avec des pieds plus droits. Ces analyses remettent en question l'idée selon laquelle les pieds plats constituent un risque substantiel pour les troubles musculo-squelettiques. Cependant, malgré ces conclusions, diverses sources telles que la littérature grise, les sites web professionnels, les forums et d'autres médias laissent souvent entendre que les pieds plats présentent un risque élevé de blessures, voire nécessitent un traitement, même en l'absence de symptômes. Malheureusement, cette situation conduit fréquemment à des interventions inutiles, telles que l'utilisation de chaussures orthopédiques ou d'orthèses plantaires sur mesure pour des pieds plats asymptomatiques, suscitant également d'importantes préoccupations chez les patients quant à l'apparence de leurs pieds. Remettre les pendules à l'heure. Les pieds plats asymptomatiques ne nécessitent généralement pas l'intervention des professionnels de la santé. Selon les connaissances scientifiques actuelles, évaluer si une personne a les pieds plats pour déterminer son risque de blessure est inefficace et contre-productif. Par contre, il est possible qu'une personne ayant les pieds plats développe une blessure musculo-squelettique. Cela ne signifie pas nécessairement que les pieds plats ont causé la blessure. Il est tout à fait possible que deux variables soient présentes en même temps sans qu'il y ait pour autant un lien de cause à effet. Il y a une différence importante entre un lien de cause à effet et une corrélation. Un lien de cause à effet implique qu'un changement dans une variable, la cause, entraîne un changement dans une autre variable, l'effet. Lorsque deux variables sont corrélées, des changements dans une variable peuvent être associés à des changements dans l'autre variable, mais cela ne signifie pas que l'une cause l'autre. Prenons l'exemple suivant pour mieux illustrer le concept. Nous soumettons 500 enfants âgés de 6 à 12 ans au même examen de mathématiques. En effectuant des tests de corrélation, nous constatons une tendance. Plus les enfants ont de grands pieds, plus leur note finale à l'examen est élevée. Cela soulève la question : est-ce que la taille des pieds influence réellement les compétences en mathématiques ? Bien sûr que non. Une autre variable, non prise en compte, joue un rôle majeur dans cette corrélation, l'âge. Comme les pieds grandissent en vieillissant, nous observons une corrélation forte, mais inappropriée. Le même principe s'applique aux pieds plats. Si une blessure musculo-squelettique survient chez une personne aux pieds plats, les recherches actuelles indiquent que ces derniers ne sont pas nécessairement en cause et d'autres facteurs doivent être explorés. Il s'agit d'un lien de corrélation et non de cause à effet. Réduisons le surdiagnostic dans les soins de santé. La réduction du surdiagnostic dans les soins de santé est devenue cruciale. Ce phénomène, défini comme le diagnostic d'une condition qui n'apporte aucun bénéfice net à l'individu, constitue un fardeau mondial entraînant des effets néfastes potentiels sur les plans physiques, psychologiques et financiers des patients. Sur le plan financier, il est facile de comprendre que la prescription d'orthèse plantaire sur mesure à plusieurs centaines de dollars pour prévenir les blessures musculo-squelettiques associées aux pieds plats asymptomatiques a un impact négatif substantiel. Surtout dans l'optique où la présence de pieds plats n'augmente que très peu le risque de développer ces blessures. Pour résoudre ce problème, les professionnels de la santé doivent contribuer à réduire le surdiagnostic des pieds plats en établissant une distinction plus claire pour leurs patients entre les variantes anatomiques inoffensives et les conditions potentiellement préoccupantes. Étant donné que le surdiagnostic entraîne souvent un surtraitement, éviter les traitements non nécessaires contribuera à apaiser les inquiétudes des patients concernant leurs pieds plats. Finalement, il est impératif d'abandonner l'idée dépassée, encore trop souvent répandue, selon laquelle avoir les pieds plats pose problème et expose les individus à un risque élevé de blessures musculo-squelettiques. Il est temps de changer notre perspective et notre approche concernant l'importance des pieds plats en reconnaissant leur diversité naturelle dans le contexte de la santé globale des pieds. Mais surtout, il est temps de considérer les pieds plats asymptomatiques pour ce qu'ils sont, une simple variante anatomique. C'était « Et si avoir des pieds plats était normal? » Un texte de Gabriel Moisan, paru dans Bel Âge.
Araignées. Pour ou contre ces intruses dans votre résidence? Un texte de Marie-Ève Schaffer, paru le 24 septembre 2024 dans Protégez-vous. Octobre est là. Sorcières, momies, vampires et autres monstres d'Halloween s'apprêtent à envahir nos rues d'ici quelques semaines. Mais pour d'autres, la vraie frayeur se trouve déjà dans leur foyer, où plusieurs araignées élisent domicile. Faut-il les faire déguerpir ou s'accommoder de leur présence? Au Québec, pas moins de 700 espèces d'araignées sont répertoriées. Parmi celles susceptibles de se loger dans les maisons, on trouve notamment les araignées domestiques, les araignées loups, les araignées de cave ou les dolomèdes, indique Santé Canada. Aucune ne pose de danger pour l'être humain, déclare Marie-Ève André, biologiste et communicatrice scientifique à l'Insectarium de Montréal, Espace pour la vie. En fait, sur les quelques 50 000 espèces d'araignées connues dans le monde, à peine 0,5% seraient potentiellement toxiques pour les humains. Nathaniel Lévy, copropriétaire de les entreprises Maheu, spécialiste en gestion parasitaire, abonde en ce sens. Les araignées ne sont pas dangereuses pour les humains, affirme-t-il, et au Québec, elles sont petites. Mais parfois, il y en a trop, et c'est là qu'on doit intervenir. Si les araignées semblent plus présentes dans nos chaumières à partir d'août et septembre, c'est parce qu'elles viennent d'atteindre leur maturité et leur taille d'adulte. C'est simplement qu'on les voit davantage parce qu'elles sont plus grosses, précise Nathaniel Lévy. Elles naissent au printemps, et là, elles ont le ventre bien gonflé, prêtes à pondre des poches d'œufs, poursuit le spécialiste. Avec les grands froids de l'hiver, les araignées vont mourir. Leur progéniture, qui passera la saison froide dans des œufs, prendra le relais le printemps prochain, décrit Mme André. Les araignées sont nos amies. On trouve des araignées dans nos maisons parce qu'elles recherchent des endroits où s'abriter et se nourrir. S'il y a des araignées proches de chez nous, c'est d'abord et avant tout parce qu'elles y dénichent de quoi manger, spécifie Marie-Ève André. Il y a donc probablement une abondance d'insectes autour de notre maison ou même en dedans. Fait à noter. Les araignées chassent plusieurs espèces d'insectes nuisibles. Leur présence chez nous peut donc être bénéfique. En fait, d'une certaine manière, elles nous rendent service. Mais elles ne sont pas nécessairement les bienvenues. Il existe plusieurs manières d'évincer ces locataires à huit pattes si elles sont indésirables. Il est cependant recommandé d'éviter de les tuer dans la mesure du possible. Déjà, le fait d'avoir un logement propre éloigne les insectes nuisibles qui constituent le régime des araignées. N'ayant rien à se mettre sous la dent, elles vont plier bagages d'elles-mêmes. En plus de bien nettoyer votre logis et de balayer les toiles. Les spécialistes vous conseillent d'isoler les entrées que les intrus pourraient utiliser pour pénétrer chez vous, comme les moustiquaires endommagés ou les cadres de portes mal calfeutrés. Ainsi, les araignées iront tisser leur toile ailleurs. Madame André et Monsieur Lévy invitent à diminuer la durée de l'éclairage extérieur qui attire les insectes. Les araignées sont opportunistes. Elles vont tisser leur toile là où leur nourriture est susceptible de passer, explique l'entrepreneur, ajoutant que les fenêtres aussi sont un lieu privilégié parce qu'elles laissent filtrer la lumière intérieure. Résilier le bail des araignées. Si vous voyez une araignée, il est possible de la capturer en plaçant un verre par-dessus et en glissant un morceau de papier dessous. Libérez-la ensuite à l'extérieur. Des dispositifs visant à attraper les araignées de façon sécuritaire, qui ressemblent à des pinces, sont aussi en vente en ligne ou dans divers commerces. Certaines huiles essentielles, la lavande, la menthe et la citronnelle, mélangées à du vinaigre blanc et un demi-litre d'eau, auraient par ailleurs un effet répulsif sur les araignées. Il suffit de pulvériser cette potion magique un peu partout, là où les araignées pourraient tenter de s'infiltrer. Un mélange d'eau et de quelques gouttes de savon à vaisselle aurait le même effet, tout comme l'odeur des agrumes. Des solutions parfois efficaces, mais à court terme seulement, indique M. Lévy. Il faut quelquefois réappliquer ces produits chaque semaine, alors qu'un bon traitement peut régler le problème d'un coup. Si l'invasion est à ce point désagréable, il est possible de faire appel à un exterminateur qui pourra appliquer des insecticides appropriés. Certains produits du même type sont aussi disponibles en vente libre. Si rien de tout cela ne fonctionne, consolez-vous. ces colocataires silencieuses ne vous dérangeront pas. Et contrairement à d'autres petits monstres, elles ne videront pas votre plat de bonbons dans quelques semaines. C'était « Araignées pour ou contre ces intruses dans votre résidence », un texte de Marie-Ève Schaffer, paru le 24 septembre 2024 dans « Protégez-vous ».
La revanche de la table de chevet. Une rubrique de Léonie Boudreau parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Il nous arrive parfois de découvrir des petits trésors de lecture sur le tard. Ces livres, qui ont accumulé injustement la poussière à côté du lit, méritent de prendre leur revanche. Charlie Vega est artiste, rêveuse, intelligente et grosse. Pour elle, ce n'est pas un si gros tracas, contrairement à sa mère, qui voudrait qu'elle se choisisse comme elle-même s'est choisie à la mort de son mari, en se mettant au régime, en commençant à s'entraîner tous les jours, en buvant des shakes au lieu des vrais repas qu'elles aimaient préparer et déguster ensemble avant. Charlie voudrait simplement apprendre à s'aimer et à arrêter de se comparer à sa meilleure amie, qui représente l'idéal selon sa mère. Mince et donc magnifique. Alors que le beau Brian s'intéresse à elle, Charlie sent qu'enfin on l'apprécie pour ce qu'elle est. Mais si elle n'était finalement que le prix de consolation? Dans cet excellent roman jeunesse, Cristal Maldonado aborde des thèmes extrêmement importants d'une façon brillante et novatrice. En présentant un personnage qui ne correspond pas aux standards de beauté, elle met aussi les tracas de cette jeune fille à l'avant-plan. Et, au lieu de nous présenter une adolescente qui veut maigrir pour être plus heureuse, elle nous montre la toxicité de cette façon de penser à travers le personnage de la mère. Les relations, tant celles avec sa mère que celles avec sa meilleure amie, sont bien ficelées et nous permettent de comprendre comment Charlie se sent. Bref, un récit initiatique authentique avec une histoire d'amour digne des comédies romantiques. La combinaison parfaite d'un roman pour ados réussi. C'était « La revanche de la table de chevet », une rubrique de Léonie Boudreau parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.